Oui, alors je propose qu'on passe tout de suite à la présentation suivante de Fabrice Rodégade, donc de l'Université Gustave Eiffel, ex-IFSTAR de Nantes, qui va lui aussi nous parler des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Donc Fabrice, si tu peux partager ton écran, s'il te plaît.
Ok, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à participer à ce colloque très intéressant. Donc moi, effectivement, je vais aussi vous parler de gestion des eaux urbaines et de techniques alternatives. Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran?
On voit la présentation après, je ne sais pas si elle est en plein écran là.
Oui, pour moi, c'est bon, hein. Non, oui, elle n'est pas exactement en plein écran. On voit encore les barres de menu.
Ok, alors attendez, je vais juste.
Ouais, il faut mettre en mode diaporama avant de partager.
Voilà, c'est la même chose alors. Désolé. Donc oui, moi je vais y arriver.
Là, tu vas voir en
Donc
diaporama
je vais.
l'écran et tu partages
Ouais.
ensuite.
Qu'est-ce que je fais? J'arrive. Voilà, normalement vous l'avez là.
Parfait, c'est
Okay.
parfait.
Merci de votre patience. Donc je vais vous parler de ce sujet à travers deux projets. Donc j'associe les personnes et les partenaires avec lesquels j'ai travaillé sur ces deux projets. Donc en particulier les collègues lyonnais avec Sylvie Barraud et Marie-Christine Gromaire au Lésu à Paris. Et puis aussi Wendy Arnoux et Cathy Verret avec lesquels j'ai travaillé dans le second projet. Donc, je vais vous parler de gestion alternative des eaux pluviales. Donc, on a déjà vu pas mal de choses. Hein. Il y a eu effectivement la présentation d'Emma Thébault hier. Ce matin, on a eu Frédéric Cherki qui nous en a parlé. Donc, vous avez bien à l'esprit cette question de gestion alternative des eaux pluviales qui doit s'articuler avec l'aménagement urbain et dans un objectif enfin, plusieurs objectifs en tout cas, la limitation des inondations, la limitation de la pollution des milieux aquatiques et puis aussi d'autres usages ou bénéfices. On a entendu parler des co-bénéfices et c'est tout à fait le cas pour ces techniques alternatives. Donc, les présentations précédentes ont cité les ouvrages auxquels on s'intéresse, hein, donc qui sont passés de, alors, des réseaux d'assainissement que nous ont décrits Marc et Youssef dans l'historique parisien. Après, avec des solutions centralisées, donc principalement des bassins de retenue, hein, que ce soit des bassins de rétention ou des bassins d'infiltration. Et aujourd'hui, avec des solutions qui sont décentralisées et qu'on appelle aussi de gestion à la source des eaux pluviales, avec l'idée de pouvoir se mettre au plus près du lieu de production du ruissellement urbain. Donc dans ces ouvrages, il y a effectivement des solutions fondées sur la nature, mais il y a aussi des ouvrages plus techniques, hein, des chaussées poreuses, des tranchées que moi j'appellerais pas forcément des solutions fondées sur la nature, mais qui sont aussi des techniques alternatives. Alors, dans le cadre de plusieurs projets coordonnés, Matrioshka, Roulet Pur et Microméga. On s'est intéressé tout d'abord aux performances de ces ouvrages, en particulier vis-à-vis de leur pouvoir de rétention d'un certain nombre de micropolluants contenus dans les eaux urbaines. Donc, ces projets avaient des objectifs communs qui étaient la question de l'efficacité de ces systèmes vis-à-vis de la performance hydrologique et épuratoire. Et puis aussi les questions de conditions d'appropriation par les usagers. Donc tout cela pouvant se faire à travers un certain nombre d'indicateurs de performance. Et puis après, bon, on avait des objets plus spécifiques au sein des projets, donc sur Nantes, sur la région parisienne ou sur Lyon. Donc dans ces projets, nous avons en particulier fait l'observation de fonctionnement d'un certain nombre d'ouvrages. Donc, avec l'avantage de se mettre ensemble, c'est qu'on avait un panel d'ouvrages assez intéressant, avec des ouvrages vraiment de gestion à la source, comme un petit parking perméable, jusqu'à des ouvrages centralisés, donc des bassins. Donc, l'idée, c'était bien de faire un diagnostic finalement de ces ouvrages à différentes échelles pour voir leur performance de façon comparée. Et donc, un premier résultat qu'on peut montrer, donc là je vais juste montrer quelques figures, c'est l'intérêt de ces ouvrages du point de vue hydrologique et du point de vue de l'abattement des volumes retenus. Donc là, on présente l'ensemble des ouvrages, de ce panel d'ouvrages, avec un abattement qui varie entre 0 et 100% à peu près. Donc ce qu'on peut voir, c'est que bon nombre de ces ouvrages ont des performances hydrologiques très intéressantes, avec donc des médianes là, représentées sur ces petites box plots qui sont proches de 100%. En particulier pour ce qui concerne les ouvrages qui favorisent l'infiltration. Et donc j'ai souligné ici les ouvrages qui sont spécifiquement végétalisés dans ce panel d'ouvrages. Et on voit que de façon générale, déjà les ouvrages végétalisés sont souvent des ouvrages d'infiltration et que ce sont donc les ouvrages qui présentent des performances les plus intéressantes en termes d'abattement des volumes. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la pollution et donc de l'abattement en concentration d'un certain nombre de polluants, de micropolluants, donc on peut voir ici donc les matières en suspension, un indicateur global de la pollution, et puis d'autres polluants comme les HAP, les métaux, et puis d'autres polluants plus émergents. Donc ce qui apparaît dans les résultats combiné de tous ces ouvrages et issu d'un ensemble d'échantillons prélevés en entrée et en sortie de ces ouvrages, c'est que les micropolluants sont souvent abattus, donc en tout cas de façon assez variable entre les ouvrages. On a des ouvrages sur lesquels on a des abattements en particulier intéressant lorsqu'on a des phases d'infiltration et d'absorption sur les matériaux. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui montre une certaine variabilité. Et encore une fois, les ouvrages plus végétalisés ont tendance à avoir des performances plus intéressantes. On peut ensuite simplement en déduire la performance en termes d'abattement des flux de polluants, de la masse de polluants qui irait vers le milieu récepteur, que ce soit les eaux souterraines ou les rivières. Donc c'est l'illustration sur le cas du cuivre ici, avec les barres oranges qu'on voit, donc avec des abattements qui sont également variables, qui sont souvent plus élevé sur les dispositifs végétalisés basés sur la filtration, et puis qui sont souvent plus variables dans les dispositifs basés sur la décantation. Voilà, donc ça c'était une première idée un peu générale de ces performances, donc qui ont montré que les performances des ouvrages de gestion à la source, et en particulier de ceux qui étaient végétalisés, étaient très intéressantes pour abattre les volumes et les débits de pointe également, et pour abattre les concentrations et les flux de polluants. Donc, évidemment, cette pollution, elle disparaît pas, elle peut se transformer éventuellement. Elle peut être aussi retenue, en particulier dans les sédiments qu'on va retrouver dans les ouvrages d'infiltration, c'est-à-dire qu'à la surface de ces ouvrages, on va retrouver un certain nombre de matières en suspension qui vont progressivement faire des sédiments dont on aura à imaginer le devenir. Et c'est ça qui nous fait le lien avec la question de l'entretien des ouvrages, puisque le maintien de ces performances passe aussi par cette question de la maintenance des ouvrages eux-mêmes. Et c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser à cette question de l'entretien des ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales pour voir la façon dont ils pouvaient être imaginés, réalisés au sein des collectivités. Ça a fait l'objet du projet JMU qui a été évoqué hier par Marie-Lou, dans lequel on a eu un partenariat avec l'INRAE. Donc l'objectif de ce projet était de connaître les pratiques d'entretien sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales dans deux collectivités en particulier. Et ce travail s'est basé tout d'abord sur une synthèse bibliographique qui a permis d'établir à partir de documents issus de guides des collectivités ou d'articles scientifiques une grille d'analyse de cet entretien pour les différents ouvrages de type technique alternative. Et puis ensuite, on a pu faire une étude sur les deux territoires concernés à partir d'interviews au sein des services qui participent à ces questions-là. Donc, simplement un exemple hein, de ce qu'on a pu récolter comme information à partir de la bibliographie. Donc, on a pu faire ce travail pour chaque type d'ouvrage et on a pu distinguer ce qui était de l'ordre de l'entretien curatif et préventif. Donc ça, c'est quelque chose qu'a évoqué ce matin Frédéric Cherki lorsqu'il a parlé de l'entretien des ouvrages. Et effectivement, on se concentre souvent sur l'entretien curatif, mais en tout cas, dans les documents et les guides qu'on a pu consulter, il existe quand même un certain nombre d'éléments et de recommandations qui sont données pour tout ce qui concerne l'entretien préventif. Et donc là, pour l'exemple des noues, hein, on arrive à retrouver des choses qui concernent la tonte ou le fauchage, hein, qui sont des choses qu'on retrouve un petit peu partout dans ces documents, sans que ce soit toujours très, très appuyé sur des travaux plus approfondis. Donc l'enquête a porté sur les deux collectivités, donc l'Eurométropole de Strasbourg et Nantes Métropole. Elle nous a permis d'aller à la rencontre des services qui étaient partie prenante de la gestion des ouvrages d'eau pluviale. Donc ça, c'est un point qui a été également mentionné, hein, le fait que ces ouvrages soient multifonctionnels bah, fait aussi qu'ils sont souvent en termes d'entretien à l'interface entre différents services des collectivités. Et puis on a également eu des interviews auprès de la DDTM qui est plus présente sur le volet réglementaire de ces questions-là. Et avec les conseils départementaux, puisque un certain nombre d'ouvrages étaient au départ départementaux et ont été ensuite rétrocédés aux collectivités. Alors, sur la gestion patrimoniale, un élément de base qui doit être réalisé au départ, c'est l'inventaire, la connaissance des ouvrages. Et ça, c'est quelque chose qui a été réalisé sur ces deux collectivités à travers un inventaire d'ouvrages qui n'est peut-être pas complètement exhaustif, mais qui a une bonne indication de ce qui se passe sur ces territoires. Donc là, c'est sur le territoire de Nantes, avec une forte présence d'ouvrages plutôt centralisés, avec des bassins, en particulier des bassins secs situés plutôt sur la périphérie. Et on voit peu d'ouvrages sur le centre-ville, ce qui rejoint un petit peu les questions qu'on avait sur le foncier précédemment. On a moins de possibilités de mobiliser du foncier sur les centres urbains. Donc voilà ce sur quoi on s'appuie à Nantes. Et puis sur Strasbourg, on a également un inventaire qui est réalisé par le service assainissement qui met en évidence le fait qu'il y a plus d'ouvrages peut-être décentralisé avec des noues et puis également un nombre de puits d'infiltration assez important. Donc sur ces deux collectivités, finalement, on a des types d'ouvrages qui sont, qui ne sont pas tout à fait similaires, hein, avec une variabilité liée sans doute à des contextes géologiques, mais aussi à des volontés politiques. Lorsqu'on essaie de voir ce que cette enquête a permis de mettre en évidence à l'échelle de ces deux territoires, on peut voir que les pratiques d'entretien sont souvent bien maîtrisées pour les ouvrages centralisés qui ont plus d'historique et peuvent être plus variables pour les ouvrages décentralisés. On a mis en évidence également le fait que la connaissance des ouvrages était un point très important, et ça c'est quelque chose qui est très présent à Strasbourg avec un SIG performant vis-à-vis de l'inventaire des ouvrages et des caractéristiques de ces ouvrages. Et ça c'est aussi quelque chose qui peut aider à la mise en œuvre d'une maintenance réussie, hein, déjà de bien connaître les caractéristiques des ouvrages et ensuite de tracer les opérations d'entretien qui peuvent être réalisées. Dans les deux collectivités, on a pu mettre en évidence le fait qu'il y avait des marchés de travaux et de gestion des ouvrages qui étaient réalisés, qui permettaient d'homogénéiser un petit peu la façon dont l'entretien était réalisé. Dans les conclusions, on a également le fait que, bon, je l'ai cité tout à l'heure, hein, ces ouvrages à l'interface entre différents services, ça peut aussi poser des problèmes de la responsabilité de l'entretien. Et puis, un autre point qui est ressorti de ces enquêtes, c'est un besoin de connaissance sur le devenir des bouts de curage dans ces ouvrages, donc que ce soit les ouvrages centralisés dans un premier temps, parce que c'est là qu'on a la décantation et de forts volumes de sédiments, mais par la suite également, c'est quelque chose qu'on va avoir sur les ouvrages plus décentralisés. Donc en conclusion, les évolutions qu'on a eues sur la gestion des eaux pluviales, c'est de passer du centralisé au décentralisé, d'ouvrages techniques vers des ouvrages plus rustiques, donc dans lesquels on favorise finalement la présence de la végétation et de la nature. C'est quelque chose pour lequel les aménageurs et les collectivités ont un intérêt, parce que ça permet d'avoir d'utiliser plusieurs fonctions, d'avoir plusieurs bénéfices, comme on l'a déjà dit. Et puis on a vu que du point de vue des performances hydrologiques, c'était quelque chose qui était avéré avec des performances assez intéressantes. Le patrimoine de ces ouvrages, c'est un point sur lequel il faut qu'on puisse progresser, parce que du fait qu'il est plus diversifié, c'est peut-être plus difficile de bien le cerner. Donc, c'est cette connaissance des ouvrages avec des objets qui sont complexes, des drains, des végétaux, peut-être des substrats et des types de sols, c'est plus compliqué à gérer que simplement un tuyau avec une dimension bien connue. Et puis ce caractère multifonctionnel qui est intéressant, il peut aussi rendre l'entretien plus complexe. Et puis je terminerai par ce qu'on a évoqué un petit peu ce matin avec Frédéric, qui était la question de la perception des usagers. Et j'aime bien penser que cette décentralisation des ouvrages, elle va aussi permettre de peut-être un peu plus responsabiliser les usagers, les riverains, et qu'ils pourraient passer de personnes qui vont plutôt réagir avec des plaintes à des personnes qui vont plus être des sentinelles finalement de nos ouvrages, hein, parce que la gestion à la source, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est des ouvrages qu'on va retrouver plus proches des usagers, des riverains, des citadins. Et ça, j'ose penser que c'est un avantage pour la suite de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Voilà, merci.
Merci Fabrice pour cette présentation vraiment intéressante. Il y avait une première question de Yves. Yves, tu veux que je te laisse la parole ?
Oui, non, c'était simplement une question sur les taux d'abattement qui ont été présentés dans un tableau. On voit des taux d'abattement extrêmement dispersés dans certains cas, dans certaines techniques, et extrêmement, plutôt très resserrés pour d'autres. Et je me demandais comment on pouvait expliquer ces variations dans la dispersion.
Bon, après, bon, je ne sais pas si tu parles des abattements hydrologiques ou des abattements épuratoires, peut-être les deux d'ailleurs.
Oui, les deux.
Oui. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ces abattements, ils correspondent à un ensemble d'événements pluvieux qui est assez hétéroclite, avec des événements qui peuvent être très petits et puis des événements correspondant à des périodes de retour peut-être de 6 mois, voire 1 an. Donc, on a en fait en hydrologie, de façon générale, on a souvent une variabilité en termes de rendement des bassins versants liés à cette variabilité des types de pluie et aussi des conditions saisonnières. Donc, en termes d'hydrologie, en tout cas, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Et puis, vis-à-vis des polluants, c'est également des constats qu'on a faits, hein, mais qui vont aussi dépendre en partie par exemple, des durées de temps sec qu'on peut avoir avant ces événements pluvieux. Parce que si tu as une durée de temps sèche importante, ben, on aura peut-être plus de lessivage des surfaces urbaines et donc qui vont apporter des quantités de polluants qui sont peut-être plus importantes. Donc voilà, en tout cas... Ces dispersions-là, on n'a pas des ouvrages qui réagissent de façon linéaire, et ça c'est clair, mais l'hydrologie, c'est, je pense que ce n'est pas linéaire de toute façon.
Merci bien, je relaisse la parole, enfin la main à Frédéric.
Alors, il y a une remarque de Jean-Jacques Hérin qui est tout à fait intéressante, donc on parle beaucoup d'ouvrages multifonctionnels et on vise des ouvrages multifonctionnels. Donc, l'idée étant que l'entretien revient à la fonction principale. Donc, si on a un ouvrage multifonctionnel, si on a une fonction principale, c'est le service en charge de cette fonction principale qui pourrait s'occuper de l'entretien. Et je pense que c'est intéressant et ça rejoint cette idée aussi que l'entretien, il doit être pensé dès la conception. À partir du moment où on va concevoir l'ouvrage, on va définir ses fonctions et en même temps, on va définir qui doit être en charge de l'entretien. Si on le fait plus tard, ça peut poser des soucis. On avance un peu sur le temps parce que je pense qu'on est un petit peu en retard.